toutes et à tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de nous. Je vais d'abord vous demander pardon si à certains moments vous allez entendre ma voix qui... Hein, mais comme il a dit les frères, ouvrez bien les oreilles. Hein. Je ne vais pas crier, hein, mais je sens que la voix, elle va partir bientôt. Voilà pourquoi je n'ai pas chanté. Alors ce matin, j'aimerais qu'on lit un passage dans l'Exode, mais ce n'est pas mon texte principal, hein, mais c'est juste pour vous expliquer un peu quel est le sujet de ma prédication ce matin. Alors, Exode 32, on va lire le verset 24 à 28. Je vous donne un peu le contexte. C'est Jacob, après s'être enfui de son frère, Ismaël. Il est parti chez Laban, il a pris femme, il a eu les enfants, ils sont passés pas mal d'années. Et à un certain moment, Dieu il lui a dit, retourne dans ta patrie. Et alors, Jacob, il est retourné, oui, mais il avait peur. Hein? Il était plein de possessions et devant, parce qu'il y avait son frère, Ésaü. C'est pas Ismaël, c'est Ésaü, pardon. Et voilà, alors il retourne, mais avant de rencontrer son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis devant tout son bétail. Hein? Il a mis les fils, qui, c'est pas qu'il ne les aimait pas, mais les fils des autres femmes. Et tout arrière, il est passé, lui, avec les fils à Rachel. Il avait peur. Et pourtant, Dieu, il lui avait dit, rentre dans ton pays, je suis avec toi, je suis ton bras, hein, qui te fortifie, rentre, c'est moi qui te l'ordonne. Voilà pourquoi, à un certain moment, dans son voyage, verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et il continue, on lit versets 29 et 30 aussi, « Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie. » Chapitre 32. Ah oui, je n'ai pas dit le livre, excusez-moi. Vous êtes bon, vous m'aimez, vous ne disiez rien. Hein? Roland, il faisait des signes, voilà. Merci, merci. Genèse 32, 29 et 30. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face. » Voilà ici cet homme qu'il a reçu de Dieu l'ordre de rentrer et il avait peur. À un certain moment, il y a eu un homme, que ce n'est pas un homme, c'est l'ange de l'Éternel, on l'a vu par la suite. Hein? Et il a lutté avec Jacob. Jacob, il a opposé de la résistance. Mais il nous a dit que l'homme lui a dit, « Bon, voilà, le temps est passé, laisse-moi partir. » Et Jacob, il a dit, « Je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies béni. » Il réclamait la bénédiction. Parce qu'ici, c'est marqué, il a lutté avec lui. Il a lutté avec lui et il a vaincu. C'est-à-dire qu'il a lutté avec Dieu et il a vaincu. Est-il possible de vaincre avec Dieu? Ce n'est pas possible. Ici, on voit l'exemple de Jacob, un vainqueur qui demande à être béni par les vaincus. Ça ne se voit pas. Donc, il reconnaissait la grandeur. Et il lui a dit, quel est ton nom? Et il lui a dit, je suis Jacob. Et il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Hein? Et Israël, ça signifie prince. Donc voilà cet homme qui a réclamé la bénédiction de Dieu. Et ça, ça nous rappelle que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons réclamé la bénédiction de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il nous a bénis, il a changé notre nom. Nous ne sommes plus des hommes, mais nous sommes des rois. À Israël, il a changé son nom en Israël, que ça signifie prince. Nous, nous sommes des rois. Avez-vous jamais pensé à cela, que vous êtes des rois à côté de Dieu? Dieu, il désire nous bénir, mais il faut qu'on accomplisse sa volonté. Il y a un verset dans Éphésiens 1, 3 qui nous a dit « Dieu nous a bénis de toute bénédiction. » De toute bénédiction. Et ça, c'est le souhait de Dieu pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, ils sont bénis. Ils reçoivent toutes les promesses de Dieu. Et ces promesses-là, nous devons les connaître. C'est la même promesse que Dieu il a fait au peuple d'Israël. Mais toutes ces promesses, elles sont valables pour nous qui vivons dans une autre dispensation. Car lorsque Dieu il promet quelque chose, il le promet pour toujours. Et si vous regardez dans le verset... dans le verset, je l'ai bien marqué, hein, chapitre 30 de Deutéronome, regardez, Deutéronome 30. Deutéronome 30. Et c'est là que ça va être mon texte du message dans lequel on va voir que Dieu bénit ses enfants par des précieuses promesses. Lorsque Dieu il dispense ses promesses, elles sont des bénédictions. Et toutes les promesses que Dieu il a fait à Israël, il les fait pour nous. Dans ces promesses, dans ces bénédictions, nous y sommes passés les jours où nous avons tourné nos yeux vers la croix de Golgotha. Alors, chapitre 30 du premier verset, jusqu'au verset 10, mais on va le voir à fur et à mesure. Mais je vais commencer avec la troisième partie du verset 9. La troisième partie du verset 9 et avec le verset 10. Voilà ce qu'il dit. Car l'Éternel, il prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Lorsque les enfants de Dieu, ils sont heureux, Dieu, il est heureux. C'est pas merveilleux, ça? Comme il prenait plaisir à celui de tes pères, c'est-à-dire comme il a pris plaisir à bénir le peuple d'Israël, il va prendre plaisir à nous bénir. Mais verset 10, quand c'est qu'il prend plaisir à cela? Quand c'est qu'il déverse ses bénédictions sur nous? Verset 10, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en faisant quoi? Comment obéir? En observant ses commandements et ses ordres écrits dans le livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Retenez ces mots, lorsque tu reviendras. Pourquoi il n'est pas dit lorsque tu viens à l'Éternel? Parce qu'on était auprès de Dieu. Mais à cause du péché, nous nous sommes éloignés de lui. Et la chose qu'il attend, c'est qu'on revienne à lui. Parce que Dieu, il a en réserve des bénédictions inouïes pour chacun de nous. Et toutes ces, et ils sont des précieuses promesses que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Et ces promesses, elles se réalisent pour tous ceux qui ont choisi Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et c'est le cheminement par lequel chacun de nous est passé. Et dans ce cheminement, chacun de nous, il a expérimenté ces précieuses promesses de Dieu. Revenez maintenant au verset 1 jusqu'au verset 3. On va voir ces précieuses promesses dans lesquelles chacun de nous, il y est passé au moment où il a pu voir ce péché. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Il y a deux choses dans la vie avant qu'on connaisse Seigneur Jésus-Christ. Il y a la bénédiction et la malédiction. Comme je dis au verset 13, lorsque tu obéiras. Hein? Mais il y a aussi la malédiction. Et vous savez, pour recevoir la malédiction, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons qu'à continuer dans les chemins dans lesquels nous étions. Pourquoi? Parce que la malédiction, elle est déjà sur chacun de nous. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dans la malédiction. Verset 2. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors, voilà, si tu obéis et si tu reviens, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera les captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. J'ai oublié de vous le dire dans ces 9 versets. On va voir cette bénédiction, cette promesse que Dieu il nous fait. La première de ces promesses, il nous dit, il ramènera tes captifs. Au verset 3. Hein? Et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de chez les peuples chez lesquels l'Éternel t'aura dispersé, et il ramènera tes captifs. C'est-à-dire ici, c'est la délivrance. Ils étaient captifs, ils étaient esclaves dans un pays, et Dieu, il est intervenu, et il les a délivrés par Moïse, les libérateurs. Et le peuple, il criait envers ce libérateur, mais un jour, le temps de Dieu est arrivé. Et ça, ça nous rappelle encore le verset de Galates. Lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous délivrer. Voilà pourquoi il nous a dit qu'il ramènera tes captifs. Si tu reviens, nous qui nous nous étions éloignés par les péchés, si on se tourne vers Jésus-Christ, il nous ramènera. Il nous ramènera où? Au pied de ce grand Dieu que nous avons, qu'il a pour chacun de nous, que des pensées de bonheur, que des pensées de félicité, de repos. Mais il dit, si tu reviens, il va te ramener d'un endroit que nous avons quitté. Adam et Ève, qu'est-ce que c'est qu'ils ont quitté? Ils ont quitté les paradis, les jardins d'Éden. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et en plus, ils avaient la communion de Dieu. Mais à cause du péché, ils sont sortis. Mais le Seigneur lui dit, si tu reviens, je vais te ramener. Voilà la première promesse que Dieu il a faite au peuple d'Israël. Si tu reviens, je ramènerai restez captifs. Ils reviendront sous la bénédiction de Dieu. Et au verset 4, la deuxième promesse, il dit, quand tu serais exilé à l'autre extrémité de la terre, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. C'est quelque chose de merveilleux ici, c'est le rétablissement. Pas seulement Dieu, il nous délivre, mais il nous rétablit. Car Dieu, il désire que l'humanité, il lui rende gloire, honneur. Il nous a créés pour lui, pour le glorifier. Et lui, il va nous délivrer de ses péchés et il va nous rétablir auprès de lui. Et vous savez, encore une fois, nous sommes des esclaves. Nous avons été mis dans ce marché aux esclaves, un peu comme faisaient les Romains. Nous étions esclaves. Et là, ils attendaient quelqu'un qui verse de l'argent, qu'il verse une rançon pour qu'il puisse le racheter, mais ils restaient esclaves. Dans ce marché d'esclaves dans lequel nous étions, Jésus-Christ, il a payé pour nous et il nous a délivrés, il nous a libérés. C'est ça avec Jésus-Christ. Et une fois qu'il nous a libérés, nous ne reviendrons jamais parmi les esclaves. Pourquoi ? Parce que la délivrance, la rançon qu'il a payée Jésus-Christ, elle est suffisante pour nous rendre libres. D'ailleurs, il y a un verset qui nous le dit. « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Libres de quoi ? Mais libres de péché. Libres de ce monde. Libres de Satan. Il nous donne cette puissance pour pouvoir dire non au péché. Parce que sans cette libération, nous ne pouvons pas dire non au péché. Nous le dirons peut-être des fois, mais au bout, nous allons tomber. Nous allons tomber. Si un marchand envoie un billet de 500 euros à nos pieds, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous faites pour les ramasser? N'est-ce pas? Qui c'est qui ne le ramasse pas? À l'intérieur de nous, ça machine, n'est-ce pas? Mais pour éviter toute chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Le laisser là, ou le prendre ou le ramener à la police. Et encore. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit à Caïn, il lui a dit, le péché est couché à ta porte. Satan, il est là. Ça suffit qu'on ouvre une tête de pont. Hein? Ouvrir une tête de pont, c'est donner une petite entrée avec un tout petit péché. Une fois qu'il est à l'intérieur de nous, sans le confesser, Satan, il est maître. Hein? Voilà pourquoi il dit, il va nous rétablir et nous ne rentrerons plus dans cet esclavage. Et c'est ce que nous avons tous fait. Nous étions fils de la nuit, fils des ténèbres, fils des rébellions, et le Seigneur il nous a rétablis, enfants de lumière, fils de Dieu, ambassadeurs de Dieu. Voilà toutes les bénédictions, toutes les promesses que Dieu il a fait et dans lesquelles nous y rentrons. Et il y a aussi une autre promesse au verset 5. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans les pays que possédaient tes pères, et tu les posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Ici, il te ramènera dans le pays. C'est-à-dire que dans le pays, c'est un pays qui leur appartenait. Ils avaient leur possession. Ce verset nous dit que l'Éternel les aurait fortifiés. Il aurait eu à intervenir en toutes choses. Et c'est exactement ce que le Seigneur il a fait dans notre propre vie si nous avons suivi ses commandements, ses ordres, et si nous nous sommes repentis et nous sommes tournés nos yeux vers Jésus-Christ. Il nous ramènera à la maison et il nous fortifiera. Comme notre sœur Sophie l'a donné son témoignage. Lorsque sa mère lui a dit, tiens, il a dit, embrasse Sophie. Son cœur, il a été fortifié. Parce que Dieu, il intervient toujours. Et c'est exactement la même chose qu'il fera avec chacun de nous. Si on suit les commandements de Dieu, si on observe, le Seigneur, il est notre soutien, il est mon refuge, on a lu tout à l'heure. Il n'y a qu'un seul et unique refuge, et c'est Dieu, et c'est l'Éternel, et c'est Jésus-Christ. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu, ce matin, il l'a annoncé, et c'est sur le journaux aujourd'hui, là. Il paraît qu'il y a un certain nombre de gens qui connus, qui ont signé pour qu'il y ait un changement, pas seulement dans le Coran, où soi-disant il y a des versets, il dit tu es les chrétiens, tu es les juifs. Il a dit pas seulement dans le Coran, mais dans la Bible aussi. Enlevez ces choses-là. Dans le Coran, oui. Parce qu'un Dieu qui proclame la tuerie, tuer telle personne. Mais dans la Bible, Dieu nous a dit, même s'il y a des passages dans lesquels, pour nous, c'est trop dur entendre dire Dieu de ça. Mais lui, il est Dieu. Et alors, il nous a dit que c'est lui qui ajoute ou il retranche quelque chose. On ne peut pas enlever quelque chose de la parole pour que la société soit heureuse. Parce que c'est la société à se soumettre à Dieu, pas le contraire. Parce que c'est Dieu qui l'a institué, le salut. C'est Dieu qui l'a dicté, la loi pour être sauvé. C'est pas selon le cœur de l'homme. Oui, mais on pourrait faire comme ça. Non, il faut faire comme Dieu dit. Et pas autrement. Et ici, il nous a dit, il nous fortifiera dans toutes les difficultés, dans toutes les souffrances dans lesquelles on va passer. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Et il nous donne ce dont nous avons besoin. C'est ça, les promesses bénies. C'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu, elle est sur nous. Pourquoi ? Parce que nous avons suivi ses commandements. Une autre bénédiction, une autre promesse, au verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Une promesse ici. Il nous dit que l'Éternel, il circoncira ton cœur. Circoncire son cœur, c'est la purification. Dieu, il va nous purifier. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. On en a parlé ce matin dans notre étude pour ceux qui étaient là. Le peuple juif, il croyait que c'était le peuple élu de Dieu. Parce qu'ils avaient sur eux les signes de la circoncision. Ah, nous avons été circoncis, donc c'est nous le peuple. Mais Paul, il nous dit que ce n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est celui qui a le cœur circoncis. C'est lui qui a abandonné son propre cœur entre les mains de Dieu. Et lorsque quelque chose se trouve où il est entre les mains de Dieu, ce cœur, il va changer, ou il doit changer. Le Seigneur, il l'a dit en Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Et pourtant, Nicodème, c'était un religieux. C'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. C'était une prophétie faite par Jérémie. Et c'était stupéfait. Il a dit, mais comment est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de notre mère? Et Jésus l'a dit, mais tu ne comprends vraiment pas les prophéties. C'est Dieu qui change le cœur. Le cœur, il reste toujours mauvais à nous. Et je le dis ce matin aussi, il n'y a pas de gens bons. On est tous mauvais. Parce que le cœur est mauvais à nous. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui l'a dit, n'est-ce pas? Tout ce qui est mauvais, il vient d'où? Du cœur. Du cœur. Voilà pourquoi il nous a dit, circoncira ton cœur. C'est Dieu qui va intervenir à changer notre vie. Nous sommes nés de nouveau parce que Dieu, il est intervenu. Comment est-ce qu'on va vivre différemment notre vie d'avant et la vivre à nouveau avec Jésus-Christ? Pas par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Mais parce que Dieu, il est en nous. D'ailleurs, il nous l'a dit dans le CEP, n'est-ce pas? Si le serment il n'est pas attaché à moi, si on n'est pas attaché à Jésus-Christ, peut-on recevoir la sève, les sentiments, les paroles de Jésus? On ne peut pas. Jérémie, il nous dit, un léopard peut-il changer sa peau? Non, il ne peut pas. Un léopard, c'est un léopard. Mais Dieu, il peut changer notre vie. Parce qu'il est Dieu. Il va nous aider à vivre cette vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, si nous avons Jésus, il doit être là. Nous devons porter des fruits. Et pas chercher des excuses. Oui, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas aller, je ne sais pas. Si vous dites « j'ai Jésus », vous devez porter du fruit. On ne peut pas ne pas en porter. On ne peut pas se dire « je suis sauvé, voilà, je reste assis chez moi ». On a été sauvé pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est tout. Et si nous ne le faisons pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit, c'est lui qui changera notre cœur. Mais écoutez-moi ça. Dieu ne changera jamais votre cœur si vous ne le voulez pas. Mais si vous vous dites, j'ai Jésus-Christ, je vais changer de vie, il le change. Dieu ne fait rien contre notre propre volonté. Dieu lui dit, tu vas être sauvé, accepte Jésus-Christ. Tu veux pas l'accepter, continue comme ça. Moi, je t'ai averti. Ézéchiel, je vous le dis toujours, ce verset d'Ézéchiel, qu'il dit à Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle. Nous sommes là, nous regardons l'humanité, nous regardons nos voisins, nous regardons tout ça. Nous voyons qu'ils n'ont pas Jésus-Christ, qu'ils ne sont pas sauvés. Et c'est à nous, c'est à vous de leur dire. C'est à nous de leur dire. Car si vous vous taisez, qui c'est qui lui dira qu'il y a un moyen de salut? Personne. Et il y a ça aussi, que si vous ne dites rien, vous êtes responsable. Parce que nous sommes des témoins. Et un témoin, il fait quoi? Un témoin, il parle. Il dit quoi? Ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a reçu. Lorsqu'il a été guéri, le malade. Ah Seigneur, permets-moi de rester avec toi. Seigneur, il a dit non. Rentre chez toi et dis aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi. Il y a eu un moment, au Moyen Âge, il y a cette histoire, le monarchisme. C'est-à-dire que celui qui s'est donné au Seigneur, il se retirait dans un désert, dans une caverne, et il passait son temps. Voilà. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur nous dit. Il dit, allez et proclamez la bonne nouvelle. Il ne nous a pas dit de rester dans une caverne sans voir personne ou sans manger. Non, ça jamais Dieu, parce que Dieu, il veut notre bonheur. Et ce n'est pas en restant sans manger ou dans une caverne que nous avons. Parce que là aussi, les pensées, ils planent. Hein? Ce que nous devons faire, c'est, si le Seigneur a changé notre cœur, nous devons manifester autour de nous. C'est ça ce qui est important. Verset 7, une autre précieuse promesse pour chacun de nous, dans laquelle on y est passé, hein, verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Il fera tomber ses malédictions qu'il a annoncées auparavant. Sur qui? Sur tes ennemis. Ça veut dire que le Seigneur, il va nous défendre. Il est là pour défendre ses enfants. Et comme il dit Paul, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Oh, peut-être qu'ils vont nous mettre à mort. Et les ennemis, ils diront, ah, on l'a tué. Non, nous sommes des vainqueurs. Parce que nous avons cette espérance. Et si le Seigneur, il le désire, il va nous sauver. C'est comme Daniel, vous en souvenez, Daniel dans la fosse au lion. Il l'a mis là parce qu'il a prié, il a désobéi à l'ordre du roi. Alors le roi, même à contre-cœur, parce qu'il l'aimait bien, il l'a mis, il l'a jeté dans la fosse au lion. Et toute la nuit, ce roi, il te disait, mais voilà, est-ce que Daniel, il est là-bas hein? Alors il descend et il crie, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Et Daniel, il a dit, oui, roi, mon Dieu, il m'a sauvé. Et les lions, ils étaient là comme deux chats. Et pourtant, ils étaient affamés. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mangé? Parce que Dieu, il était là. Dieu était là. Tous les martyrs qu'ils ont jetés, les Romains, qu'ils ont crucifiés, qu'ils ont empalés, tout ça. Personne n'y criait, mais ils chantaient. Pourquoi ils agissaient comme ça? Parce qu'ils ont le Seigneur dans leur cœur. Car la mort, c'est un passage. C'est un passage à la vie. Et s'il y a des difficultés, le Seigneur peut intervenir. Si des fois il n'intervient pas, c'est pour nous épargner toute autre chose. Mais encore une fois, il fera tomber ses malédictions sur tes ennemis. Il est là pour nous défendre. Encore une autre bénédiction, chapitre 9, verset 9, première partie. Hein. L'Éternel, ton Dieu, te comblera des biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, et les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, et les fruits de ton sol. Hein? Prospérer tous les travaux. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous rend fructueux. Il nous donne des fruits. Notre travail, notre santé, toutes choses, ils vont porter leurs fruits. C'est ce qu'il nous dit ici. Hein? Pourquoi? Parce que les arbres que le Père il a planté, ils reçoivent l'eau du ciel. Parce que le Seigneur, encore une fois, il a à cœur ses enfants. Il veut notre bonheur. Et voilà pourquoi ce qui sera resté, il nous a dit, regarde, il y a un verset dans 2 Rois 19:30, il dit, ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines et portera du fruit. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Vous en souvenez l'histoire de Job? Il a tout perdu. Tout. Il était vraiment dans la tristesse, mais il n'a pas renoncé. Il a dit, j'ai tout perdu, mais Dieu a donné et Dieu l'a pris. Et il ne savait pas cette dualité qu'il y avait entre Satan et Dieu. Il ne savait pas les pauvres. Mais c'était une dualité entre les deux. Mais il disait, bon, j'étais riche. Le Seigneur, il m'a donné, il m'a pris. Chose qu'il n'a pas fait sa femme. Tout de suite, elle s'est retrouvée dans des difficultés. Maudit Dieu. Et Job, il a dit, non, Dieu il a donné. Et Dieu il a repris. On lui a tout pris, les enfants, les brebis, les chèvres et tout. Mais on voit à la fin, le Seigneur il lui a donné le double. Parce que ce qu'on perd pour la gloire de Dieu, Dieu il va nous le rendre. Dans le psaume 23, j'aime ce verset de David, il dit « Ma coupe déborde ». Le Seigneur il ne se limite pas à la remplir, mais il va déborder. Car cette coupe, tout ce qui sort de nous, qui vient du cœur circoncis, il faut qu'il soit pour les autres. Des fois, le Seigneur nous donne des bénédictions, pas seulement pour nous, mais pour que les gens autour de nous, ils en profitent. C'est ça. C'est ça les bénédictions. Et ça, c'est des promesses que le Seigneur il nous fait. Et il nous a dit, Jésus, il en a parlé lui-même, si les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, ils restent seuls. Mais s'il donne sa vie, un peu comme Jésus, il est mort, mais à cause de cette mort, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a ce christianisme. C'est les gens qui l'ont accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Ils sont là. Nous sommes là. Et il est mort, ses grains, il est mort, mais il a poussé, il a donné du fruit. Et ces fruits-là, le Seigneur, il nous le dit encore dans le chapitre 15, les cèpes. Hein? Il produira encore des fruits pour que le Père il soit glorifié. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Et si on n'a pas Jésus dans notre cœur, nous ne pouvons pas le glorifier. La deuxième partie aussi du verset 9. Prospérer ton travail de tes mains. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir autrefois. Les fruits de tes entrailles, de ton troupeau et les fruits de ton sol, il te comblera de bien. Oh, Dieu ne nous promet pas la richesse, mais il nous promet des biens, d'être bien avec lui. D'ailleurs, dans notre prière, il est notre Père. Donne-nous notre pain quotidien. Il ne nous dit pas, je vais remplir ton frigidaire. Non, le pain quotidien. Chaque jour, le Seigneur est là. C'est ça, là. Et si nous avons confiance en Dieu, si seulement, et c'est que des fois, en lisant la Bible, des fois, nous disons, mais est-ce que Dieu peut-il vraiment faire ça? Regarde dans quel état je suis. Dieu peut et veut faire toutes ces choses-là. Mais la chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Voilà les sept promesses que le Seigneur il a données au peuple d'Israël. Mais c'est des promesses qu'il fait à nous aussi. Dieu, il veut nous bénir. Il veut nous bénir, Dieu. Et c'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Et toujours dans Deutéronome 28, cette fois, le verset 8, regardez ce qu'il nous dit là, 28, 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers. Dans toutes tes entreprises, il te bénira. Voilà. Une chose seulement à faire, est-ce que nous croyons à toutes ces choses-là? En sachant que Dieu, il promet, il dit, j'ordonne la bénédiction d'être là. Croyons-nous à ce que Dieu dit? Toutes ces bénédictions, toutes ces promesses bénies, toutes ces précieuses promesses, elles sont pour nous. À nous de les approprier et se dire, je marche avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.